Culture, grand reportage, t'arraches les gueules.
On se prépare depuis plusieurs semaines, en courant deux à trois fois par semaine.
Ça y est Guillaume, on est passé sous l'arche, on a mis le chrono, c'est parti. On commence tranquille, je reste avec mes copines et puis après chacun fait sa course. L'objectif c'est tous se retrouver à l'arrivée.
Je pense qu'effectivement ça peut rendre plus performant, pas au niveau de la performance physique, mais plus dans le monde, plus équilibré par rapport à soi-même, par rapport aux autres.
1:59.40, il a gagné 10 secondes dans les 1500 derniers mètres, énorme.
I am my happiest man today.
Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui, car le message qu'aucun être humain n'est limité est maintenant dans l'esprit de tout le monde.
Quoi de plus simple que d'enfiler une paire de chaussures pour aller courir? Mais quoi de plus exigeant que de courir pour couvrir la distance toujours mythique du marathon? Aller au bout de soi-même, vivre ce voyage intérieur sans pareil, tester ses limites, mais aussi s'extraire du flux quotidien, de la folle course du monde, pour, paradoxalement, apprendre à ralentir tout en avançant et en parcourant plus de 40 km. New York, Paris, Tokyo, Londres, Boston, toutes les grandes villes ont leur marathon aujourd'hui et cette épreuve olympique est de plus en plus appréciée, même des amateurs. À l'origine, en 490 avant Jésus-Christ, le soldat Philippides parcourt la distance du village de Marathon à Athènes d'une traite pour annoncer la victoire des Grecs et il en meurt épuisé. En hommage aux messagers de l'Antiquité, les premiers JO de l'ère moderne organisent un marathon sur la même distance, 40 km, en 1896, et c'est un postier grec qui remporte la course. Mais les mythiques 42,195 km, nous les devons à Londres, au JO de 1908. La famille royale insiste pour que les athlètes rallient le château de Windsor au White City Stadium, 41,8 km, mais il faut rajouter quelques précieux mètres pour que la course se termine au pied de la reine, ou selon les versions, que la cour ait une meilleure vue sur le départ de la course. Quoi qu'il en soit, cette distance reine, c'est le cas de le dire, fut codifié ensuite en 1921 et nul ne peut plus lui échapper aujourd'hui. Court toujours la folie du marathon, c'est un grand reportage signé Guillaume Batin, réalisé par Emmanuel Faucillon. Pour écouter et commenter ce grand reportage, nous sommes en compagnie de Guillaume Leblanc. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à Paris Diderot, mais il faut dire je crois maintenant à l'Université de Paris, c'est ça Et auteur du livre « Courir, méditation physique » paru chez Flammarion et réédité dans la collection Champs. C'est un livre qui a obtenu le prix lycéen de la philosophie en 2017. Il faut dire aussi que vous êtes marathonien.
Oui, tout à fait, oui.
Et vous venez de courir il y a pas
longtemps. Je viens de courir le marathon de Bordeaux il y a une semaine.
C'était un marathon spécial.
De nuit, oui, voilà, donc c'est le seul en France comme ça.
Marathon nocturne, on aura l'occasion d'en parler. Puis nous sommes avec Guillaume Batin du service des sports de Radio France. Bonjour Guillaume.
Bonjour Tara.
Vous êtes marathonien, vous aussi peut-être, parce qu'on vous entend courir dans le reportage.
Non, je ne fais pas partie des 14 millions de personnes qui courent tous les jours, ou presque, en France, surtout avec le blouson de motard, la perche et les lourds micros de France Culture. J'ai couru derrière les femmes qu'on va entendre tout à l'heure, mais j'ai fait l'essentiel de ces 42 km 195 avec Marcel, qui m'a amené régulièrement au 10, au 20, à la barre des 30 et jusqu'à la ligne d'arrivée.
Et il était sur une moto.
Voilà.
Donc on écoute votre reportage, Guillaume, qui va commencer justement au bord de la Seine en Normandie avec des coureuses.
Au petit matin d'un dimanche d'octobre, 800 personnes s'échauffent avant le départ d'un marathon sur les rives de la Seine et de l'Eure. Amfreville-sur-Iton, Val-de-Reuil, 42 km 195. Nous allons suivre 5 mères de famille, collègues de travail ou amis. Elles se préparent ensemble depuis de longs mois. Et c'est une grande première pour 3 d'entre elles.
Bonjour Stéphanie. C'est mon 5e marathon et mon temps 4h25.
Bonjour Delphine, c'est mon premier marathon. Évidemment, pas de référence, je veux juste le finir.
Bonjour Sabine, c'est mon 3e marathon et j'ai fait les 2 premiers à 3h58. Donc l'objectif, c'est de ne pas dépasser 3h58.
Bonjour, moi c'est Stéphanie ou Nani, 45 ans, premier marathon aussi et objectif, franchir la ligne d'arrivée en bon état surtout. Voilà.
Bonjour, moi c'est Gladys, c'est aussi mon premier marathon. Mon objectif, c'est le terminer de la meilleure façon qu'on puisse le faire.
Alors vous allez courir individuellement, mais vous êtes aussi unis par un même projet.
Oui, nous sommes une équipe. Nous avons monté une association qui s'appelle les G comme Gazelle, avec pour objectif de courir au Népal en octobre 2020 avec l'association La Sénégazelle. Donc nous allons faire un projet solidaire afin d'emmener 46 fournitures scolaires chacune que nous allons distribuer en main propre aux enfants népalais directement dans les écoles. Et nous allons courir une dizaine de kilomètres par jour avant d'aller distribuer ces fournitures aux enfants.
Le soleil vient de se lever, il ne fait pas très chaud, il faut être motivé.
Oui, la motivation est toujours là. En plus, on est à domicile, on est toutes du secteur Louviers, Val-de-Reuil, hein, Carville, etc. Donc la région est sympa, le parcours est plat, donc propice à finir en tout cas. Donc on espère être au rendez-vous.
On a des craintes quand on s'élance sur un premier marathon, on a peur de quoi ?
On a peur de pas le terminer, on a peur d'avoir mal aux jambes, on a peur que le cœur s'emballe, on a peur de tout, on a peur de soi-même, de tout.
Oui, c'est ça, c'est l'angoisse. Bah déjà, c'est vouloir le finir, ça, on a la volonté, mais après, on se dit, est-ce que je vais pas avoir mal là, est-ce que je vais pas avoir mal là ici. Il faut beaucoup de mental. Et après, quand on court en groupe, c'est toujours plus facile parce qu'on discute et du coup, ça entraîne. Mais voilà, non, je pense qu'on va réussir. On a tout fait pour, on a fait des entraînements pour, donc si on n'y arrive pas. On sera vachement déçu.
Alors, on se prépare depuis plusieurs semaines en courant 2 à 3 fois par semaine, individuellement ou à plusieurs. C'est des sorties et courtes et rapides et très longues, jusqu'à 30 km.
Là, on est à 30 minutes du départ. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Nous préparer, nous changer.
Alors, je vous laisse.
Merci. Merci.
Avec le 100 mètres, le marathon est la course la plus prestigieuse de l'athlétisme moderne. Son histoire remonte en l'an 490 avant Jésus-Christ dans la Grèce antique, lorsque le messager Philippides court une quarantaine de kilomètres entre deux villes, Marathon et Athènes, pour annoncer la victoire contre les Perses. Mais la distance exacte de 42 km 195 ou 26 000 date des Jeux Olympiques de Londres en 1908. Ils correspondent à la distance entre le départ, le château de Windsor et la ligne d'arrivée, le White City Stadium.
J'ai gardé deux photos symboliques.
Dominique Chauvelier accumule les coupes et les médailles. Quadruple champion de France, troisième des championnats d'Europe. Il court le marathon depuis 50 ans.
La première qui date de 1981. Alors 81, c'est vraiment le début, c'est un peu sociologique, le début de l'emballement, suivant les noms, du jogging, du running, du footing, etc. Voilà, début. Et moi, je suis champion de France en 81. Je suis tout jeune, je suis employé de banque, j'ai 24 ans et à cette époque-là, c'était très fortement déconseillé de faire un marathon à 24 ans parce qu'on disait, bah non, ce sont que les vieux coureurs qui font du marathon, style Alain Mimoun qui avait 36 ans, 40 ans, etc. Mais moi, un peu tête brûlée, je dis, si, moi je veux faire des longues distances, j'ai fait le marathon et j'ai cassé les normes en étant champion de France en 2h14. Photo noir et blanc, bah oui, hein, ça va d'époque. Quelques années plus tard, allez, on est presque 10 ans plus tard, on est en 1990, je me suis entraîné dur, matin, soir, c'est 20 à 30 kilomètres par jour, tous les jours, et je suis devenu dans les meilleurs Européens, et je fais troisième au championnat d'Europe à Split, championnat d'Europe d'athlétisme, hein, moi au marathon. Le vainqueur, c'était quand même le favori, c'était le champion olympique en titre, hein, à Séoul en 88. Le deuxième, Gianni Bordin. Hein. Le deuxième, c'est un autre Italien qui s'appelait Poli, qui venait de gagner le marathon de New York. Et moi, j'avais fait troisième derrière ces deux stars du sport, hein, carrément, gagner New York et champion olympique. Donc, c'était un grand moment médiatique aussi, parce que c'était aussi les débuts de Patrick Montel, de Nelson Montfort à la télévision. Et bon, ce marathon-là était dit en fin d'après-midi le samedi. Donc, je suis arrivé, une médaille de bronze au journal de 20h. Donc, naturellement, médiatiquement, ça fait beaucoup pour ma notoriété.
Quand vous commencez le running, le jogging, la course à pied, qu'est-ce que vous entendez sur les trottoirs du Mans quand vous commencez à vous entraîner? C'est branché à l'époque de courir?
Ah non, pas du tout. Alors, donc là, on est dans le milieu de l'athlétisme. Hein. Moi, il y avait les Jeux Olympiques de Mexico en 1968, Colette Biston qui gagne. Moi, je suis en sixième. Je vois ces événements sportifs qui commençaient à être diffusés à la télé, hein, les premières télévisions chez nos parents. Et puis, je me suis dit, moi, j'aimerais faire un sport individuel parce que j'étais un gamin réservé qui jouait seul dans sa chambre. Je voulais faire un sport individuel. J'aurais bien aimé faire du vélo. C'était l'époque Merckx, Thévenet, Ocaña. Mais issu d'un milieu modeste, j'ai pas osé demander à mes parents d'acheter un vélo. Un vélo, c'était quand même un investissement. Hein. Je vous dis, on est fin des années 60. Mon père, simple agent EDF, j'ai pas osé demander. Donc, j'ai dit, je vais faire de la course à pied, une paire de de basket ou de running, de chaussures en daim, là. Et je suis allé au club d'athlétisme à La Flèche, hein, dans le sud de Sarthe. Et à cette époque-là, dans les années 70, non, c'était pas bien vu. Lorsque je partais de chez mes parents en courant, j'avais entre guillemets un petit peu honte parce que vous pouviez, ou certainement je me suis fait traiter de fou ou de feignant, c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'il a à courir dans les rues, lui il est malade, ou alors c'était le monde rural ou ouvrier de l'époque, hein, dans les années 70, il y avait encore un monde industriel qui n'existe plus aujourd'hui. Donc quelqu'un qui dépensait ses forces à courir, il ferait mieux de le faire plutôt qu'à travailler dans les champs ou à l'usine, donc voilà. Et tout ça, ça a changé à partir des années 80.
Stéphanie, on vient de passer le 10e kilomètre.
Oui, on est encore très bien, ça va. Bon, on commence à réfléchir, ça va être un peu long, un peu sous la chaleur, mais ça va le faire.
Ça fait un quart de la distance. Ouais. Du coup, on se dit, est-ce qu'on est dans le bon rythme pour aller jusqu'au bout?
On peut jamais savoir, oui, mais on sait jamais. Et puis, c'est encore la partie la plus simple. Ça va se corser au 30e. Physiquement, ça va.
Où sont les copines? Il y a Sabine qui est devant.
Gladys est juste derrière. Elle doit être 50 mètres derrière moi. Et je pense que les Delphine et Stéphanie sont derrière encore. Voilà, elles ont prévu de mettre un peu plus de temps.
Bon courage.
Merci.
Et je suis avec les trois dernières, dont Delphine. Comment ça va?
Oui. Eh bien, ça va très bien. Jusqu'à maintenant, ça va plutôt pas mal. Il y a une bonne météo. On est toutes les trois au même rythme. On fait passer le temps. On discute, on se demande si ça va, on s'alimente. Et ben, c'est super. On est vraiment très contente d'être là. Et on est déjà contente d'être à 10 km.
Il s'agit de rester ensemble, là. C'est important.
Je pense que si Marianne se sent bien, elle va partir un petit peu. Nous, toutes les deux, je pense qu'on restera. Parce qu'on a vraiment le même rythme.
On est dans un rythme de quoi? De 5 heures par là?
Oui, 5 heures, 5h10.
Vous êtes toute fraîche.
Ouais. Alors on a eu une éponge il n'y a pas longtemps, c'est peut-être ça.
Et quand on se sent bien, ça donne pas envie d'aller un peu plus vite?
Bah en fait, si, mais on sait très bien qu'il faut pas. En fait, on l'a déjà fait ça. Et puis on lâche au bout de 20, 25, donc non. Non, non, il faut se préserver. Le but, c'est d'aller au bout. C'est pas d'aller vite à 30, c'est d'aller au bout à notre rythme.
Les encouragements sur le côté, ça compte?
C'est sympa, ouais. Bon, ils sont un peu... C'est un peu timide.
C'est pas New York, hein?
Non, je sais pas, je suis jamais allée à New York.
Là, c'est Louvier.
Peut-être
là.
Que... Bah, j'aimerais bien un jour aller voir. À plus!
Il y a le marathon de New York, mais aussi celui du cercle polaire. Les 42 km 195 autour des chutes Victoria au Zimbabwe ou dans la baie de San Francisco. Le rock'n'roll marathon à Liverpool, celui de la Grande Muraille de Chine, et puis les marathons des grandes capitales. Rome, Londres, Berlin, Paris. Jean-François Martins est l'adjoint au sport de la mairie de la capitale.
Ça commence il y a 43 ans, ils sont à peine un millier de coureurs la première année. Une partie du trafic n'est même pas bloquée. Et donc ils courent pour certaines portions du parcours qui est essentiellement dans le bois de Boulogne, le long des voitures qui passent. Et donc évidemment des conditions qu'on n'imagine pas, alors qu'aujourd'hui on a près de 50 000 coureurs sur le marathon de Paris. Donc on a connu une évolution absolument vertigineuse en l'espace de 4 décennies. Une évolution du running qui, pour le coup, a vraiment 10 ans. La course à pied est devenue le grand sport des urbains qui, à tout moment, matin, midi, soir, dans les parcs, dans les jardins, courent et se donnent, pour certains d'entre eux, l'objectif suprême, le challenge suprême à relever, cette distance Rennes. Et au fur et à mesure, en travaillant d'abord nous-mêmes, puisqu'il fut un temps où la ville était elle-même l'organisatrice de ce marathon. La ville est même encore aujourd'hui la propriétaire de la marque Marathon de Paris, qu'elle concède désormais à un organisateur. De plus en plus, on a travaillé pour que ce parcours, d'abord, il soit beau, il soit roulant, pour que sportivement, potentiellement, un jour, le record du monde, il tombe à Paris. Ce qu'on n'a pas encore complètement réussi à faire, parce que Berlin a vraiment un parcours qui est encore plus roulant que le nôtre. Et aussi pour que de plus en plus, ces 42 kilomètres, ça soit une carte postale de Paris. Et donc on a travaillé ce départ Champs-Élysées, le long du musée du Louvre, l'arrivée à la Bastille, Vincennes, et puis évidemment ce retour par le long de la Seine, la vue Tour Eiffel, et puis l'arrivée sur l'avenue Foch. Et donc tout ça, ça fait aussi une carte postale, des images dans le monde entier. Et donc on est passé d'un petit rassemblement dans le bois de Boulogne à sans doute ce que les organisateurs nous qualifient comme le plus beau marathon du monde, en tout cas en carte postale, et le deuxième le plus nombreux en termes d'inscrits après New York.
C'est un argument de vente pour la ville de Paris, le marathon, parce que c'est télévisé, on voit des images dans le monde entier. Vous travaillez les sites par lesquels passent les coureurs, donc c'est un élément important de votre communication internationale.
C'est un double enjeu pour nous, le marathon. D'abord, c'est de maintenir et d'inscrire la course dans la ville pour les Parisiens, que... on a 500 000 personnes qui courent dans les rues de Paris chaque année à travers les courses sur route. C'est près de 200 courses par an, des petites courses, des 5-6 km, comme la parisienne qui fait 6,7 km et 35 000 coureuses jusqu'au marathon de Paris et sa longue distance. Et donc quasiment tous les week-ends, de mars à octobre, on a des courses sur route. Et ça fait partie d'abord de la culture parisienne, ça fait partie des opportunités qu'on donne aux Parisiens de faire du sport dans leur ville, de se réapproprier les rues, les places, les avenues, d'avoir une autre occupation de l'espace public que les voitures le dimanche matin. Et donc ça change le regard sur la ville. Et puis ça représente pour nous une opération de promotion du sport. Mais c'est aussi une opération internationale. Le marathon de Paris, c'est 35% de marathoniens étrangers qui le courent. Ça veut dire que le marathon lui-même est déjà un événement touristique. Vous avez, vous imaginez, 35% des 50 000, vous êtes aux alentours de 16 000 coureurs qui sont des coureurs étrangers, qui viennent du coup dormir 3, 4 nuits à Paris. Je vous laisse faire le calcul, on est à près de 70 000 nuitées hôtelières générées par le marathon, juste par son existence. Et puis après, comme c'est l'un des marathons les plus télévisés du monde, dans le trio de tête avec New York et Berlin, chaque année, à la fois la course élite, mais ce départ presque aussi célèbre que désormais celui du pont de Brooklyn, où on voit les Parisiens et l'ensemble des coureurs s'élancer avec l'Arc de Triomphe en fond, le long des Champs-Élysées, qui fait rêver le monde entier. C'est des images qui vont être envoyées sur les chaînes de sport et les chaînes d'actualité du monde entier. Et donc évidemment, c'est un marqueur d'image pour la destination Paris.
Au-delà de Paris, c'est une compétition que toute grande capitale qui se respecte doit organiser aujourd'hui.
Oui, ça fait partie un peu des quelques... must-have, désolé de l'anglicisme, des grands événements sportifs. Il faut normalement à peu près désormais avoir son marathon, son tournoi de tennis, ça c'est élégant aussi, et un grand club de football. On a la chance, on a les trois.
Après 21 km, les concurrents du semi-marathon s'arrêtent sous les applaudissements des amis et de la famille. Les marathoniens et les marathoniennes, eux, sont encore loin de la ligne d'arrivée et le plus dur commence. Nos 5 gazelles sont toujours en course, aucun abandon à signaler et Sabine est toujours en tête.
Sabine ?
Oui.
C'est la mi-course, j'entends les supporters dire à côté, non pas c'est la mi-course, mais c'est la fin. C'est ça qu'il faut avoir en tête là, aux 20 km ?
On commence à taper dans le dur là, ouais. Entre le 20 et 30, ça commence à être dur, j'appréhende les 30. Les 30, le mur. Donc, pour l'instant, ça va. Ça va, ça va. Les jambes tiennent. J'ai le rythme régulier. La tête tient. Je sens quand même un peu de coup de faiblesse. Quand même, on sent qu'on arrive à mi-course, mais je vais tenir.
Tu cours avec qui ?
Alors, une équipe de gendarmes et handicap. Donc, j'ai pas tous leurs prénoms. Je sais qu'il y a Anthony, je crois. Philippe.
Et Candy.
Candy qui est, comment on appelle ça ?
MC, infirme moteur cérébraux.
Et le véhicule dans lequel vous êtes, c'est quoi ?
C'est un
fauteuil classique qui est un petit peu optimisé pour la course à pied. Voilà, qui nous permet d'être moins fatigués sur la longueur.
Avec une petite assistance vélo derrière ?
Exactement, le fiston qui suit pour les barres, les gels, la bouteille. Et puis le besoin pour Candy si jamais elle a besoin de quoi que ce soit.
Donc ça roule et ça court tous ensemble, Sabine.
Bah je les ai récupérés, je sais pas, au 10e peut-être.
Ouais, ouais.
Et puis finalement ils ont le rythme que je veux avoir, donc je me dis que ça peut être pas mal pour pas être seul.
Chapeau de courir en poussant un,
ah, pas moi,
un véhicule comme ça.
Non, moi non, je les admire, oui. Mais oui, c'est dur. Ils ont du courage.
Il est dur ce faux plat là. Hein.
Oui, ça va Guillaume ?
Ça va.
Il est dur, ouais. Surtout les deux petites côtes qu'on a eues avant, mais finalement on a ralenti le rythme, ça a permis de récupérer un petit peu. C'était pas mal.
Beaucoup plus tard, c'est au tour de Delphine de passer la barre des 20 km.
Delphine ?
Oui ?
Ça continue, 20 ouais. km et toujours toutes les trois ?
Ouais, toujours toutes les trois, oui, oui. Ouais. On avait même récupéré un monsieur qui a couru un peu avec nous et puis il a dû s'arrêter à un ravito. Mais ouais, toujours toutes les trois. Un peu plus marqué, je pense.
Les cheveux sont mouillés. Tout
ouais,
à l'heure, c'était fait, sec.
En fait, il fait quand même très très chaud, mine de rien. Donc on s'asperge avec les éponges. Je pensais pas souffrir autant de la chaleur.
C'est moite un peu.
Ouais, en plus, c'est assez lourd. Bon, ça c'est couvert, par chance. On n'aura plus le soleil.
Vous avez des bananes ou des sacs à dos
ouais.
pour l'eau, mais aussi pour la musique.
Alors, ouais, on a notre DJ au milieu. On les avait pas, on l'avait pas mis sur les 10 premiers kilomètres. On a beaucoup tchatché. Mais quand on part, le rythme cardiaque augmente. Et comme nous, on n'est pas très forte, alors on s'est mis un peu de musique.
Ça aide la musique ?
Ouais, très clairement. Ouais, ouais. C'est
pour ma fille. Ni trop lent, ni trop rapide, pile poil, ce qu'il nous faut.
Assez entraînant.
Est-ce que ça suffira pour faire la suite et la fin ?
Mais bien sûr.
Ah,
mais bien sûr. Vous en doutez ? Vous en doutez ?
Non. Je suis sûr qu'on se reverra tout à l'heure sur la ligne. Bon courage,
exactement,
mesdames.
Exactement, merci.
10 millions de personnes font de la course à pied aujourd'hui en France. Ils courent seuls, en ville ou à la campagne. Certains prennent le départ de 10 km, de semi-marathon ou pour 42 km 195. Pour les plus passionnés, jusqu'aux 170 km de l'ultra-trail du Mont-Blanc ou les 10 000 mètres de dénivelé de la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. Les meilleurs sont sponsorisés, les autres doivent payer et le budget annuel peut s'avérer très élevé. Luce Rabille est pompier de Paris et coureur depuis près de 40 ans.
Qu'est-ce qui se cache dans cette énorme vase ?
Bah, c'est l'ensemble des médailles que j'ai pu glaner sur toutes les courses que j'ai faites, que ce soit du 10 km jusqu'au marathon et semi-marathon.
Combien de marathons en combien d'années ?
Alors, 65 marathons commencés, 63 terminés.
Voilà. Ça représente quoi la course à pied dans votre vie d'homme, de pompier ?
Ça fait partie de ma vie, hein, c'est intégrant. Hein. C'est-à-dire qu'en 40 ans, quand on est pompier déjà, on a besoin d'une condition physique. Et la course à pied, c'était naturellement pour moi la chose qui était la plus simple. La gymnastique un peu moins. Donc courir, bah, naturellement, ça s'est fait avec le pompier. Et ensuite, c'est l'esprit de groupe. Puisque quand on est pompier, on court souvent en groupe. On a une association sportive qui nous permet de partir ensemble, de voyager et de partager.
Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous utilisez le plus souvent et pourquoi vous investissez plus en bas qu'en haut ?
Alors, personnellement, ce qui est important pour moi, c'est les chaussures et les chaussettes. Pourquoi ? Parce que le pied, c'est ce qui va nous emmener au bout du marathon. Donc, les chaussures doivent être à la fois amortissantes et confortables. Et après, effectivement, moi, je me limite à un budget de maximum 150 euros. Pourquoi ? Parce que...
Pour les chaussures.
Oui. Il m'en faut 2 à 3 paires par an, donc c'est quand même un budget important.
Ça peut monter beaucoup plus haut.
Ah oui, oui. On peut trouver des paires de chaussures à 300 euros, hein, qui sont ultra légères. J'en ai une paire, là, qui est ultra légère. Mais très clairement, c'est quand même un gros budget. Effectivement, il faut penser aussi les dossards et autres. Et pour donner un exemple, quand on va à New York, même s'il faut y aller avec un package, le dossard est à minimum entre 300 et 400 euros. Donc c'est quand même un gros, gros budget. Les gros marathons comme Paris, pareil, c'est en moyenne entre 90 et 200 euros. Donc c'est quand même un budget. Deuxième budget important pour moi, c'est les chaussettes. Les chaussettes, c'est pareil. Ça va avec la chaussure. C'est les anti-frottements, c'est le confort. Et on se doit d'avoir une bonne paire de chaussettes pour éviter tout ce qui est ampoule et j'irai tout ce qui va pouvoir éventuellement nous empêcher de finir le marathon. Donc moi, c'est les deux budgets les plus importants.
Combien les chaussettes ?
Alors les chaussettes, ça va, c'est pas très cher, c'est entre 30 et 35 euros la paire. Pour 100 euros, j'ai 3 paires. Important dans le budget, c'est la montre connectée.
Celle que vous portez au poignet tout le temps ?
Voilà, celle que je porte moi tout le temps. Il y en a qui les portent que pour courir. Moi, personnellement, je la porte tout le temps. Entre mes débuts, fin des années 70, et maintenant, où à l'époque, on courait un peu à la sensation. Maintenant, on est capable de faire des plans d'entraînement avec les rythmes cardiaques, avec les puissances qu'on va développer et autres, ce qui est quand même pas pareil.
Ça vaut plus qu'une belle paire de chaussures.
On est plutôt, j'irais entre 200, hein, 500 ou 600 euros pour ceux qui ont les plus sophistiqués. Donc, et comme on est coureur, tous les 3-4 ans, on se dit, bah, y en a une qui est mieux et on change. Il y en a qui changent plus souvent, mais moi, c'est à peu près ce rythme-là.
Et vous, votre budget annuel, si on doit tout additionner entre inscription, déplacement, matériel?
Alors, si on inscrit, oui, si on met tout ça, je pense que je suis à 4-5 000 euros à l'année.
Je m'appelle Christine Marielle. J'ai fait, quand j'étais jeune, de l'athlétisme et du cross-country avec le club l'EAL, Étoile Athlétisme Louvérienne de Louviers, évidemment. Je suis à la retraite, alors je fais du bénévolat, voilà. On leur prépare des pains d'épices, des oranges qu'on coupe en quartier parce que c'est plus facile, des bananes aussi, on les épluche parce qu'on sait... On s'est aperçu que c'était beaucoup plus facile aussi. Des raisins de Corinthe et puis bah de l'eau évidemment en abondance. C'est bon enfant, on s'amuse bien. Moi je viens tous les ans parce qu'il faut des bénévoles. C'est très très important parce que bah, on se rend compte que s'il n'y en a pas, il n'y a rien qui se fait. Voilà. Il y a beaucoup de courses parce que mon mari fait aussi des courses et qui sont annulés à cause du manque de bénévolat. C'est ça qui est triste. Et puis voilà, on les encourage.
Bravo. Encore un peu de travail parce que les derniers ne sont pas prêts d'arriver. Là.
Non, ils ne sont pas prêts d'arriver. Et puis je vois que là, ils sont encore nombreux. Allez, 800 là, c'est énorme. Hein.
Eh bien, il va falloir couper encore quelques oranges, je pense.
Oui, je pense. On va s'y mettre. Hein.
Après un échange de regards avec Christine au point de ravitaillement, les coureurs repartent. Et assez rapidement, les voilà face à eux-mêmes. La foule se disperse, les âmes se retrouvent seules. Une solitude obligatoire qui force à l'introspection pour les uns, au recueillement pour les autres. Pascal Sylvestre est journaliste. Après avoir couru plus de 50 marathons, il a créé le site runners.fr. Il est également l'auteur du livre intitulé « Marathon ».
À chaque coureur, homme ou femme, sa vérité et son cheminement. Justement, effectivement, le marathonien chemine dans sa tête et dans son corps. Ce qui est clair, c'est que la pratique de la course à pied d'endurance, comme toutes les pratiques sportives d'endurance, apprend à mieux se connaître, à mieux gérer ses forces, alors qu'elles soient physiques ou qu'elles soient aussi mentales, parce qu'effectivement, on se fatigue mentalement en courant un marathon, et ceux qui sont les plus forts dans les derniers kilomètres sont ceux qui sont les plus frais physiquement, mais aussi mentalement, ceux qui n'ont pas laissé trop de gomme dans la tête dans les 20 ou 30 premiers kilomètres. Voilà, donc moi j'ai beaucoup appris sur moi-même tout au long de ces 10 années où j'ai beaucoup couru, 4 ou 5 marathons par an. Et j'ai découvert qu'il y avait effectivement pour moi quelque chose qui était au moins aussi spirituel que physique, qui passait par des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure. Voilà, je sais pas, c'est difficile d'en parler d'une manière très, très concrète, parce que ça me touche beaucoup d'abord. C'est quelque chose qui est pour moi très intime. Alors, moi, je suis catholique, je courais en catholique, donc je priais. Ça m'a beaucoup aidé de prier.
Ça vous émeut encore là aujourd'hui d'en parler?
Ce qui m'émeut surtout, je vais vous dire franchement, c'est de ne plus courir. Enfin, en tout cas, c'est de ne plus courir le marathon. J'ai pas loin de 60 ans. D'autres que moi ont dû arrêter bien avant. D'autres que moi peuvent passer la soixantaine et même très au-delà et demeurer marathonien. Mes genoux m'y autorisent plus. Alors, c'est pas tragique. Hein. Je peux encore courir, hein. Mais plus ces distances-là. Et effectivement, le deuil de la distance marathon est quelque chose qui n'est pas fait encore chez moi et qui effectivement à chaque fois que j'en parle, chaque fois qu'on me projette dedans, me touche énormément parce que c'était quelque chose qui était pour moi extrêmement central, extrêmement rassurant de savoir que à n'importe quel moment du jour ou de la nuit quasiment, je pouvais courir 42 km. Aujourd'hui, je n'en suis plus sûr et sans doute je n'en serai plus capable parce que malgré tout, je ne suis plus assez entraîné pour ça. Mais en tout cas, cette dimension mentale, je ne l'oublie pas, elle est en moi et c'est effectivement quelque chose qui sans doute ce sera l'héritage du marathon en moi davantage que le physique, parce que le physique il s'en va au fil des années. En revanche, le voyage au bout de soi-même et au fond de soi-même surtout est quelque chose qui ne s'oublie pas et qui est totalement indélébile.
C'est de l'introspection, c'est une thérapie presque, c'est comme si on voyait un psy, sauf qu'on est face à soi-même. Ça se fait naturellement, ça s'est fait naturellement pour vous, ce cheminement?
Bon, la foi, d'abord, ces prières, elles intervenaient vraiment lorsque ça allait mal, j'allais dire. Lorsque j'ai besoin de la Sainte Vierge, c'est que ça commençait à devenir dur. Mais bon, évidemment, je priais pas tout le temps et certainement pas lorsque je m'entraînais avec mes copains sur la piste ou dans le parc de Saint-Cloud le samedi matin. Ça demeurait beaucoup plus léger, beaucoup plus ludique que ça. Courir pendant longtemps, voilà, par exemple, ces séances du samedi matin avec les copains, ou même si vous êtes témoin d'un marathon et que vous suivez un marathon, soit parce que vous courez vous-même ou parce que vous le suivez de l'intérieur, vous constaterez que souvent les coureurs se parlent ou échangent dans les premiers kilomètres, parce que ça fait sens, soit quand on est à l'entraînement, on se raconte ses petites histoires de la semaine, soit en course parce qu'on veut juste vérifier qu'on est à la bonne allure et que, etc., etc., peut-être même faire connaissance avec un coureur ou une coureuse qu'on a repéré. Et puis au fil du temps, au fil des kilomètres, le silence se fait. Le silence, il se fait parce que l'effort devient de plus en plus peut-être soutenu. En tout cas, il dure, mais aussi parce que les coureurs n'ont plus besoin de parler. Parce qu'ils sont en eux, ils ont chacun leur territoire, chacun leur mode de fonctionner dans l'effort, et ça ne se fait que vraiment que dans le silence. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché, bouleversé même. J'ai des souvenirs de ces marathons où au 30e kilomètre, on était 4, 5, 6, 10 parfois, parfois 2. Je me souviens avoir traversé le Queensborough Bridge avec un jeune Français qui s'appelait David, un petit Breton, c'était son premier marathon de New York.
Un moment clé, le 30e kilomètre en plus.
Oui, mais surtout à New York et surtout cette traversée du pont, parce que les ponts à New York sont les seuls endroits où les spectateurs, les supporters, j'allais dire, ne sont pas admis. Donc c'est les seuls moments de la course où on est seul. Et donc c'est le seul moment où il y a un vrai silence. En plus, c'est tellement majestueux, on a Manhattan devant soi et on sait, mais lui, le petit David ne le savait pas, que quand on arrive de l'autre côté, quand on entre dans Manhattan sur la première avenue, là c'est un petit peu, pour vous donner un ordre d'idée, l'Alpe d'Huez un jour d'étape de Tour de France. C'est-à-dire que on est porté par une marée humaine, et j'avais dit au petit David, attention David, n'accélère pas, parce que forcément tes jambes, tu vas avoir envie d'aller plus vite. Et évidemment, il a été plus vite, et je l'ai retrouvé ensuite plus tard, juste avant l'arrivée, on a fini ensemble, mais ce silence dans l'effort, notamment sur le Queensborough Bridge, mais par exemple à Paris, qui est un marathon difficile aussi parce que les derniers kilomètres se font dans le bois de Boulogne, il faut le dire quand même, dans un désert absolu. Donc ces kilomètres entre nous, j'allais dire, vraiment entre nous, entre coureurs, sont extrêmement précieux.
Est-ce que ça rend meilleur le coureur de faire un marathon pour toutes ces raisons-là?
Non. Je crois absolument pas ça. Je crois pas qu'il y ait des vertus à courir, à être capable de courir 42 kilomètres. Je pense qu'effectivement, ça peut rendre plus performant, pas au niveau de la performance physique, mais plus dans le monde, plus équilibré par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Mais il y a tellement d'autres manières de parvenir à ça. Je ne pense pas que les coureurs à pied, marathoniens, soient des êtres humains plus respectables ou de meilleure qualité que les autres. Absolument pas.
Stéphanie, 30 km, c'est fait, mais c'est dur. Hein.
C'est dur. J'ai eu un début de crampe au mollet, donc en fait j'ai choisi de m'arrêter cette fois-ci plutôt que de poursuivre jusqu'à ce que ce soit l'enfer. Je me suis fait masser, j'ai trouvé un copain qui était pas bien, je me suis arrêtée. Et j'ai retrouvé Gladys derrière, je me suis arrêtée. Bon, je suis reparti.
On voit que les visages sont creusés, certains ont le regard un peu vide, ça marche.
Ouais, ouais. Ça commence à être difficile, on voit beaucoup de marcheurs. On sent que c'est dur.
Là, c'est la tête qui fait la différence un peu, si le corps va à peu près.
Là, ça va être la tête, ouais. Là, ça va commencer à attaquer la partie difficile, parce qu'on est à 3h20 et qu'on en a marre. Et qu'il reste plus que 12, mais c'est 12 quand même.
C'est les plus difficiles, les derniers kilomètres?
Ouais, ça commence à être difficile. Les deux derniers, c'est rare. Mais les... là, les 10 qui viennent vont être difficiles.
Allez, au bout, au bout, au bout, au bout.
Alors que Stéphanie vient de parcourir 30 km en 3h20, les meilleurs de la discipline s'entraînent avec acharnement plusieurs fois par jour pour battre le record du monde. Le coureur kényan Eliud Kipchoge détient le meilleur temps depuis le marathon de Berlin en 2018 en 2h, 1 minute et 39 secondes. Mais la star du marathon est entrée dans l'histoire le 12 octobre dernier à Vienne avec un temps non homologué d'1h59 et 40 secondes.
Heureux, l'homme de Cap Tagat au Kenya, qui dans moins de 40 secondes maintenant va battre cette barrière mythique des 2 heures au marathon. 1h59-40. Il a gagné 10 secondes dans les 1500 derniers mètres, notamment dans le dernier kilomètre par rapport à la projection qui était prévue, c'est-à-dire qu'il a fini avec une réserve énorme.
From the first kilometers, I was really comfortable.
Dès les premiers kilomètres, j'ai été très à l'aise. Je m'entraîne pour cela depuis 4 mois et demi. Et surtout, j'ai inscrit dans mon cœur et dans mon esprit que j'allais courir un marathon en moins de 2 heures. Les 500 derniers mètres ont été le plus beau moment de ma vie car je savais que j'allais écrire l'histoire. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui car le message qu'aucun être humain n'est limité est maintenant dans l'esprit de tout le monde. Que si vous croyez en quelque chose et que si vous le gravez dans votre cœur et votre esprit, eh bien, ça peut se réaliser.
C'est que de la joie. Hein.
Quelle émotion, quelle émotion. Vous avez partagé la ligne d'arrivée toutes les deux, Stéphanie, Gladys.
Bah c'est dur, mais c'est bien quoi. Bah disons que c'est une belle souffrance à l'arrivée quoi. Mais par contre, je suis pas sûre d'en faire un autre.
4h58.
Ouais, moins de 5, c'est... J'ai pas d'objectif, mais je trouve que moins de 5, ça fait bien, quoi.
Stéphanie, ça a été dur, il y a des problèmes de mollets.
Ouais, j'ai eu des problèmes, mais c'est pas grave, j'ai fini avec Glad, elle m'a attendu, c'est cool. Bah,
c'est mon coach, hein. C'est normal.
On court ensemble, c'est d'habitude
ouais.
Ouais, on s'entraîne
tous les deux. Tous les entraînements avec Steph. Donc, fallait bien qu'on finisse ensemble.
Vous retiendrez quoi de ce marathon, de ce premier marathon?
La joie dans l'effort.
Là, moi, je suis contente de l'avoir emmené au bout, c'est cool. Enfin, de l'avoir emmené, elle m'a emmené, mais...
On s'est emmené, quoi.
Vous êtes encore maquillée, belle, même pas rouge, rien.
Ah bon, bah c'est super.
On a fait des petites pauses pour être en forme.
Vous referez?
Il est déjà arrivé.
Moi, je suis inscrite à Paris, mais j'en peux plus, j'en ai vraiment... Non, c'est vraiment dur, quand même. C'est de plus en plus difficile.
Et vous, Gladys?
Moi, aujourd'hui, je n'en referai pas, mais je dis toujours ça. Mais je pense vraiment que je n'en referai pas. Demain, ça ne va pas être très, très rigolo. Mais...
On va aller se faire masser pour ne pas avoir de crampes. Et puis après, on va se reposer. Et puis la semaine prochaine, on court.
Peut-être, peut-être.
Si, tranquille, pour se faire du bien.
C'est une grande folle.
Déjà, là, on va aller se retrouver tous ensemble. On va aller tous manger, là. Et partager. Voilà. Là, on a eu Delphine au téléphone, il y a 3 km.
Donc, elle va arriver.
Oui, ouais. Elle arrive, elle marchait un peu, elle s'est fatiguée, mais ça va.
Personne n'a abandonné des gazelles?
Non.
On va aller voir, on va chercher notre médaille.
La médaille.
Ah, la médaille.
Bravo.
Merci. Voilà. C'est le Graal, en fait. C'est le Graal. Moi aussi.
Vous écoutez le grand reportage sur France Culture, court toujours la folie du marathon. C'était donc un reportage signé Guillaume Batin, réalisé par Emmanuel Faucillon. Et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Batin, bien sûr, et de notre invité Guillaume Leblanc.
Grand reportage
t'arrache les gueules.
Guillaume Leblanc, vous êtes philosophe. On a entendu cet effort tout au long de la course qu'a enregistré Guillaume auprès de ses gazelles, mais aussi d'autres coureurs émérites. Vous êtes aussi marathonien, on l'a dit tout à l'heure. Et courir, c'est, vous le racontez bien dans votre ouvrage, c'est vraiment aller au bout de soi-même et faire une expérience philosophique, même pour ceux qui n'arrivent peut-être pas à en parler comme ça. Vous dites qu'on part au début, on est tous cartésiens, enfin on fait l'expérience de la dualité du corps, et à la fin, ce n'est plus pareil. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce mécanisme?
Oui, c'est-à-dire que courir, c'est vraiment une expérience au long cours. Donc forcément, on ne commence pas à courir comme ça spontanément. Il y a toujours de meilleures raisons de faire autre chose. Donc il faut un acte de volonté au départ. Donc c'est le moment un peu kantien, la philosophie de Kant qui nous dit, ils expliquent que la volonté est première. Puis ensuite, quand on déroule les premiers kilomètres, les 10, 20 premiers kilomètres, on est sur une pensée cartésienne de la dualité de l'esprit et du corps. Le corps est une mécanique qui fonctionne bien si on s'est entraîné. Et donc l'esprit peut divaguer, peut aller ailleurs. C'est un moment plaisant, on peut regarder les paysages. Et puis brusquement, on est rappelé à sa faiblesse, à sa finitude, au fait que son énergie est pas inépuisable. Et donc dans le corps, ça finit par finir, justement. Et au même moment, dans l'esprit, les pensées aussi s'estompent. C'est le moment que Spinoza, où on est spinoziste au fond, parce que au XVIIe siècle, Spinoza, contre Descartes, a expliqué que ce qui arrive au corps arrive au même moment à l'esprit. Et c'est vrai que c'est ce qu'on expérimente, on n'a plus de réserve psychique pour aller au-delà du corps. Donc il faut tenir, et c'est ce fameux mur du 30e, 35e kilomètre. Et je dirais qu'après, on n'est plus ni spinoziste, ni cartésien, ni kantien, on essaie de tenir jusqu'au bout.
Dans votre livre, vous dites que c'est même à la fin, on est obligé d'acquiescer à la faiblesse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, parce qu'on part toujours au commencement d'une course avec l'idée qu'on a une énergie au fond un peu infinie. Et je pense que dans l'existence, chacun d'entre nous, on vit avec cette idée qu'on peut puiser dans l'énergie. Et dans un marathon, progressivement, on se rend compte que cette énergie, c'est un stock qui s'épuise plus ou moins rapidement. Donc il faut reconnaître cette faiblesse. Et c'est vrai que très souvent, aux alentours du 30e, 35e kilomètre, on constate des personnes qui pleurent sur la route, des personnes qui sont effondrées. Enfin, il se passe des choses vraiment étranges. Et ça atteste de cette fragilité. C'est une épreuve, oui, dans laquelle on est à la fois, bien sûr, fort, mais en même temps, au plus près de sa faiblesse. Donc c'est ce point d'indistinction. Je trouve que la course à pied, en général, c'est tous les repères qu'on a classiques. Force, faiblesse, plaisir, douleur s'estompent un peu.
Une question, Guillaume, peut-être.
On n'est jamais vraiment seul parce qu'il y a toujours cet appareil qui suit nos vies, ce téléphone portable.
Moi, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais.
Vous n'avez pas ?
Non.
Que la plupart des coureurs ont ici sur le bras.
De plus en plus, oui.
Alors, il y a une certaine force mentale évidente chez tous ces gens parce qu'une écrasante majorité des partants sont finishers, comme on dit dans le milieu, arrivent au bout. Je crois que c'est 53 000 sur 55 000 à New York. Mais on n'est jamais vraiment seul parce qu'on a cet appareil qui nous suit et qui nous traque. Nos amis, nos familles peuvent voir où on en est, peuvent voir si on s'arrête, si on marche, si on abandonne.
Oui, ça c'est l'aspect, ce que j'appelle dans le livre sur courir, la méditation physique, c'est l'aspect Formule 1 un peu de la course à pied. Il y a un côté dans le sport, enfin, je trouve qu'il y a deux entrées dans le sport. On peut entrer dans le sport par la version équipement, la version Formule 1. Et donc là, effectivement, il y a un côté Formule 1 de plus en plus entré dans la course à pied. Mais on peut aussi entrer dans le sport par la reconnaissance, justement, de la pauvreté en équipement. Parce que pour courir, ça a été dit à un moment donné.
Les chaussures en daim.
Il suffit d'une paire de chaussures, d'un flottant, et puis on sort et on va courir. Ça reste un sport pauvre, entre guillemets. Et je trouve que ce qui est beau dans la course à pied, c'est cette espèce de dimension de la pauvreté du sport, de reconnaissance de la pauvreté. Je crois que beaucoup de personnes recherchent finalement cette espèce de dépouillement dans la course à pied, même s'ils ont les équipements.
Vous parliez du côté Formule 1, c'est vrai qu'il y a presque quand même comme une contradiction aussi dans le marathon. Moi, je lisais que à l'époque, enfin au départ, dans les années 70, le marathon moderne, on va dire, on va pas remonter à l'Antiquité, le marathon de New York a été créé, je crois, en 70. Vous disiez, Guillaume, le marathon de Boston bien avant au 19e.
1897.
Voilà, 1897 pour le plus ancien, mais disons, la vogue des marathons, c'est les années 70. Et c'était à l'époque presque la contre-culture. C'est-à-dire, on sortait du stade où effectivement on faisait de la performance pour aller vers un marathon qui était quelque chose de plus libre. Et finalement, c'est devenu quand même un phénomène de société. Comment est-ce que vous voyez son histoire finalement ?
Oui, c'est une histoire très compliquée. Je pense que toute trajectoire trop rapide qui dirait aujourd'hui, c'est maintenant le sport de la normalité, de l'intégration, le sport de l'intégration capitalistique. Parce qu'il y a dans les entreprises, on pousse les cadres à aller courir par équipe, etc. Il y a tout un aspect, si tu cours pas, c'est que t'es pas vraiment dans la norme, entre guillemets. Donc il y a toute cette dimension-là qui est sociologique qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'au départ, ne serait-ce que courir dans les rues, c'était vraiment un acte queer, entre guillemets, anormal, c'était bizarroïde. Donc sortir du stade, c'était vraiment s'aventurer dans une autre dimension. Donc c'est sûr qu'il y a ces transformations internes, mais je crois qu'à la fin des fins, et c'est particulièrement bien montré, je trouve, dans le reportage, ce qui prime pour quelqu'un qui tente un marathon, c'est cette dimension de l'aventure. Et si on faisait quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est possible, d'explorer un domaine de soi. Je pense que c'est pour ça que c'est un sport qui reste, malgré tout, philosophique, entre guillemets.
Mais pour les marathoniens comme vous, qui en faites pas mal, est-ce que à chaque marathon, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle aventure, vraiment?
Ah oui, parce qu'il y a toujours une angoisse, un stress. Bon, la semaine qui précède, on est exécrable dans sa famille, etc. Il y a un aspect un peu monomaniaque qui revient inévitablement et avec une forme d'excitation, effectivement, parce que tous les entraînements accumulés pendant les 3 mois précédents trouvent là leur issue, en quelque sorte, logique. Et puis on sait qu'aucun marathon ne se ressemble. Donc les sensations seront tout le temps différentes.
À cause des villes différentes qu'on découvre.
À cause des villes, à cause de son rapport à sa forme physique, à cause de la manière dont on a commencé un marathon, parce qu'on est allé un peu trop rapidement ou un peu trop lentement. Il y a 1000 facteurs qui font que les marathons ne sont jamais les mêmes. Ce qui demeure quand on fait un marathon dans une très grande ville, c'est cette joie de l'exploration de la ville sans voiture. Et puis cette espèce d'apprentissage de la meute, parce que courir avec des milliers de personnes, c'est presque sentir que l'on se fond dans une espèce d'individualité plus grande que soi. Alors il y a des individus au début de la course, ceux qui sont en tête, les champions. Il y a des individus qui sont rejetés à la fin, ceux qui n'arrivent plus à continuer, mais au milieu, il y a une espèce de meute qui parcourt comme ça, comme un flux ininterrompu, un espace. Ça, c'est être à l'intérieur, c'est d'une jouissance incroyable.
Pascal Sylvestre dit à un moment, ce journaliste qui est allé à New York plusieurs fois, il dit qu'il y a quelque chose de rassurant à se dire qu'on est capable, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, de parcourir 42 km 195. C'est un problème existentiel presque, de savoir qu'on est suspendu à cette capacité physique et mentale, de pouvoir faire ça.
Oui, mais tout dépend, je suis d'accord avec cette idée, mais je dirais à condition de lui donner tout son volume philosophique. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire qu'être capable de courir 42 km à n'importe quel moment du jour et de la nuit?
Moi, par exemple, je n'en suis pas capable.
Mais ça veut dire qu'on peut prendre une liberté qui consiste à interrompre ses activités ordinaires pour partir, s'entraîner, courir seul, être débranché pour le coup, personne ne sait où vous êtes seul au monde. Et là, il y a une dimension effectivement de révélation de son existence, d'autant que c'est une incarnation, c'est-à-dire que vous courez à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc vous explorez un rapport à la durée, à l'intérieur d'un rapport à l'espace, qui vous fait réfléchir inévitablement au rythme que vous avez. Et forcément, cette idée du rythme, c'est la vie elle-même. Parce que la vie est un rythme. C'est pouvoir exister, c'est pouvoir justement, finalement, se construire un rythme à soi-même. C'est tout ça qui intervient dans cette formule. Je peux courir 42 km à n'importe quel moment. C'est-à-dire que je peux, au fond, déployer une philosophie personnelle qui n'a pas à passer par des mots, mais qui passe par un rapport à son corps.
On sent qu'il y a la même chose dans la tête de Eliud Kipchoge, cet homme qui a ce record non officiel d'1h59 et 40 secondes, quand il dit que il est entré dans l'histoire, que c'est le plus beau moment de sa vie et que quand le corps et l'esprit décident de quelque chose, eh ben il a prouvé que il n'y avait pas de limite finalement pour l'homme.
C'est ça, exactement. Hein, il dit aucun être humain n'est limité, si vous le gravez dans votre cœur et votre esprit, vous pouvez le réaliser. Mmh.
Donc le Kidam a ça en tête, mais le sportif de très très haut niveau aussi, le meilleur du monde.
Oui, le sportif de très haut niveau, pour ce qui me concerne, c'est vraiment une autre planète. C'est la planète vraiment des très très grands, parce qu'être capable de courir à plus de 20 km/h de moyenne, 21 pratiquement sur 2 heures, c'est proprement inouï. On a l'impression que ces personnes-là, je les ai vues au marathon de Rome par exemple, elles volent au-dessus du sol.
En revanche, ce qu'ils ont aussi peut-être de différent de vous, c'est qu'ils gagnent énormément d'argent, enfin pour certains d'entre eux. Et c'est quand même une dimension importante du marathon, parce que c'est vrai que le marathon est devenu enfin un véritable business. Le marathon de New York, on a regardé tout à l'heure avec Guillaume, donc le premier coureur qui gagne quand même 100 000 $, et en tout, l'ensemble des vainqueurs se partagent 800 000 $. Ouais. C'est une manne financière énorme.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui explique que beaucoup de parce qu'on a toujours parlé à tort d'un physique spécial qui existerait en Afrique du Nord, en Afrique noire, etc.
Les Éthiopiens, les Kenyans.
Les Éthiopiens, les Kenyans, les Marocains. En réalité, beaucoup aujourd'hui expliquent leurs exploits par la volonté aussi de gagner de l'argent à un moment où ces sports-là ont été délaissés par les, entre guillemets, les occidentaux pour aller vers des sports plus rentables. Il n'empêche qu'à l'origine, il y a quand même un talent extraordinaire. Moi, je me souviens d'avoir rencontré le vainqueur du Marathon des Sables, qui est une épreuve hors norme, où on court plusieurs fois 40 km dans le désert du sud marocain. Et il m'expliquait qu'il avait commencé à courir parce que il était né là et qu'il voulait rejoindre son père qui était à 20 km dans le Sahara et qu'à chaque fois, il devait fuguer parce que sa mère ne l'autorisait pas à le faire. Et donc, il avait commencé à acquérir un talent du sol, du type de course qu'on peut faire dans le sable. Donc, il y a cette espèce de relation à un lieu aussi qui définit tout champion, je crois, hors norme. Et ça transparaît aussi, je pense, aujourd'hui, avec les Kenyans, avec les Éthiopiens, avec les Marocains.
Mais est-ce que vous trouvez que, comme on dit souvent quand même, l'argent pervertit un peu l'esprit du marathon ?
Moi, personnellement, je recherche plutôt des marathons qui sortent un peu
des grands circuits
mondiaux. D'abord parce que c'est enquiquinant de s'inscrire. Il faut s'inscrire de plus en plus tôt. Pour New York, c'est pratiquement 2 ans à l'avance. Il faut entrer dans des circuits et c'est cher financièrement. Alors que vous avez d'autres marathons qui sont beaucoup moins cotés, entre guillemets, et où on retrouve cet esprit, effectivement, de la course.
Un mot peut-être de Guillaume, quand même, parce que tout à l'heure, on parlait aussi du record, donc moins de 2 heures, c'est exceptionnel, de ce Kenyan, et c'est un record non homologué. Et pourquoi, Guillaume ?
Alors, c'est une grande entreprise britannique, Ineos, qui a financé ce projet-là, déjà.
Financé par un milliardaire,
ouais, c'est ça,
Monsieur Radcliffe.
Monsieur Radcliffe, qui est passionné par le sport en général, par le marathon en particulier, et cet homme, Eliud Kipchoge, dont on parle, le Kenyan, a déjà fait une tentative sur le circuit de Formule 1 de Monza en Italie, ça a échoué, et là il y a toute une organisation qui a été mise en place pour arriver à battre ce record, enfin non pas ce record, mais passer sous la barre des 2 heures, ouais. Voilà, comme certains tentent de passer la barre des 32 kilomètres, et avec un système de lièvre, donc des marathoniens professionnels qui ont maintenu le rythme autour de lui, avec un système de course en V pour qu'ils bénéficient aussi de la pénétration dans l'air, des voitures devant, un système de laser pour qu'ils aient le repère du temps devant physiquement sur un parcours à Vienne avec très peu d'humidité. Tout a été organisé pour que cette barre des 2 heures soit écrasée, tombée. C'est ce qui s'est passé avec un petit peu d'avance, avec 20 secondes d'avance, mais ces conditions font que la Fédération internationale, le monde olympique, voilà, a considéré que c'était pas des circonstances de course classiques, donc c'est un temps, 1h59.40, qui n'est pas homologué, mais il est quand même recordman, détenteur du recordman du marathon.
En tant qu'athlète. En tout cas, merci beaucoup Guillaume Leblanc d'avoir accepté notre invitation. Je cite encore votre livre, Courir, méditation physique, au champ essai. Et puis merci beaucoup à Guillaume Batin d'avoir signé ce reportage qui a été réalisé par Emmanuel Faucillon. À la technique ce soir, Jean-Guilain Meige. Merci à tous les deux. Vous pouvez réécouter cette émission sur francefuture.fr.